Sur les 11 jours de course, j'ai dormi 3 fois à l'hôtel. C'est des nuits d'hôtel très courtes, hein. Si j'avais pu payer en fonction du temps que je restais, ce serait intéressant. Le but de l'hôtel, c'était essentiellement de pouvoir prendre une douche, de laver un tout petit peu le cuissard et 2-3 choses, enlever le sel, la transpiration, et puis m'avoir quand même un lit un peu plus confortable. Le reste du temps, j'ai dormi à la Belle Étoile. Au moment, finalement, où mon corps disait que ça suffisait pour la journée, j'essaie de trouver un endroit un peu abrité des regards, abrité des voitures aussi, où je puisse m'endormir quelques heures.
Une fois que vous y étiez, j'imagine que c'était très compliqué, parfois dans la tête.
C'est vrai que la tête est vraiment l'élément crucial dans la course. C'est elle qui va vous permettre de gérer les douleurs que vous avez, la fatigue qui se ressent, et puis commander en fait au corps de continuer au-delà de ce que vous pensiez ou jugiez auparavant tenable. Et pour ma part, il y a eu des moments difficiles, évidemment. Il y a des moments où vous essayez de vous recentrer sur l'objectif, essayez de pousser quelques kilomètres de plus pour voir si la machine repart. J'ai deux moments où effectivement je me suis assis sur le bord de la route en me demandant ce que je faisais là.
Donc au-delà d'une préparation simplement physique, il y a vraiment une grosse préparation mentale, peut-être aussi réussir à ne plus forcément écouter son corps.
C'est une des raisons, avec mon background médical, puisque je suis médecin, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément à titre personnel, c'est de voir comment, face à un objectif qui paraît physiquement insurmontable au départ, mon corps et ma tête allaient pouvoir converser, et puis comment les deux allaient se gérer finalement. Et ce qui est absolument phénoménal, hein, ce que j'ai appris au fil de la course, c'est que la tête conditionne le corps à 100%. À tel point qu'au moment où j'ai franchi la ligne, mon corps a réclamé son dû, et puis finalement, j'ai même plus pu me lever d'un banc pour pouvoir marcher. Vraiment, le dialogue entre les deux et la tête est quand même plus puissante.
Est-ce que vous avez un bon souvenir et puis un mauvais souvenir vraiment en particulier?
Le bon souvenir, tout le monde dirait que c'est le franchissement de la ligne, même pas. Je dirais que c'est les 2-3 jours avant où vous sentez que vous allez y arriver. Vous sentez que finalement votre corps s'est mis en route, même si c'est en mode survie, et que vous allez atteindre l'objectif qui paraissait, encore une fois, insurmontable au départ. Ça, c'est vraiment une forme de jouissance, si on veut, de plaisir qui vient et qui vous aide encore à vous surpasser. Les éléments négatifs, je vous en donne deux, ce qui est redouté par tous les cyclistes, c'est une crevaison. Mais si vous crevez dans un petit chemin de campagne, perdu dans une forêt, que vous avez encore 5 km à marcher jusqu'à la prochaine route, c'est un tout petit peu délicat. Là, il faut vraiment rassembler toutes les énergies pour pouvoir continuer. Et puis l'autre aspect, et ça j'y étais préparé, c'est les chiens errants, qui sont surtout très présents en Macédoine et en Grèce, et qui vous tracent après, et ils viennent de nulle part, surtout la nuit, pour vous attaquer les mollets. Donc ça, c'est un stress supplémentaire.
Qu'est-ce que vous en retirez?
C'est des choses qui commencent à refaire surface, comme des perles que vous mettez sur un collier. Il y a beaucoup de souvenirs qui viennent sous forme de flash photographique, on va dire, que moi seul, puisque j'ai pas pris beaucoup de photos, peux témoigner. Des odeurs, des personnes que j'ai rencontrées, et puis ça, je l'associe à des moments où j'étais bien ou moins bien sur le vélo. Donc j'essaye de refaire en fait le parcours géographique, et puis de mettre les idées en place avec comme but, on va dire, dans les semaines qui viennent, peut-être faire un petit récit ou un blog pour essayer de faire envie peut-être à d'autres personnes.